Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a longtemps, me semble-t-il, que Franck Ferrand ne nous avait pas parlé de Versailles. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Il y a longtemps, en effet, et cela me manquait, j'ai trouvé pour le faire aujourd'hui une excellente excuse, l'apparition d'un livre de Fabien Hopperman, Le Versailles des présidents, 150 ans de vie républicaine chez le Roi Soleil, édité par Fayard. Voilà une approche originale d'un monument qu'on a peut-être trop tendance à identifier à la monarchie. Ce n'est sûrement pas mon invité, Jean Garrigue, qui dira le contraire. Versailles sera aussi le sujet de notre retour aux origines en fin d'émission, mais je ne vous en dis pas plus.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le château de Versailles était devenu une sorte d'objet encombrant pour tous les régimes qui se sont succédés après la Révolution française. Vous savez que ni Napoléon Ier, même s'il en a eu l'intention pendant un petit moment, ni Louis XVIII, ni Charles X, ni évidemment Louis-Philippe n'ont souhaité se réinstaller au château de Versailles. Louis-Philippe a fait mieux, il a carrément transformé le château pour en faire une sorte de grand musée, des galeries historiques dédiées à toutes les gloires de la France. Vint ensuite la Seconde République, alors qu'il n'a vraiment eu aucun rapport avec Versailles, ce régime éphémère est extrêmement parisien. Et c'est Napoléon III qui va utiliser un tout petit peu Versailles. Son épouse, l'impératrice Eugénie notamment, y organisera une grande exposition. Une exposition qui a lieu au Petit Trianon au moment de l'exposition universelle de 1867. Et puis arrive le conflit contre la Prusse en 1870. Et là, évidemment, tout va changer puisque non seulement les Prussiens entrent en France, viennent mettre le siège sous les murs de Paris, mais ils s'installent physiquement dans Versailles, dans la ville de Versailles, non pas dans le château, d'ailleurs il faut le préciser. Le château est une ambulance militaire prussienne, mais le roi de Prusse, qui va bientôt devenir l'empereur d'Allemagne, s'installe à la préfecture qui avait été inaugurée juste quelques années plus tôt par Napoléon III. Elle était encore toute neuve, et on peut dire que son premier véritable occupant aura été le roi de Prusse. Quant à son chancelier, le terrible Bismarck, il s'installe rue de Provence à l'hôtel de Jessé. Autant dire que la tête pensante des Prussiens se trouve à Versailles. Et Versailles devient d'une certaine manière la capitale éphémère d'un empire de Prusse, enfin d'un empire, d'un futur empire allemand en pleine guerre. Une date terrible que les Versaillais aujourd'hui encore n'ont pas oubliée, c'est celle du 18 janvier 1871, lorsque les Altesses germaniques venus donc de tous les coins de cette immense zone géographique de l'Allemagne de l'époque, se sont retrouvés dans la galerie des glaces du château de Versailles pour proclamer le roi de Prusse empereur d'Allemagne. Et voilà maintenant l'Europe dotée d'un empire, d'un nouveau Reich, hein, c'est le deuxième Reich d'une certaine manière, avec un empereur qui ne restera donc pas en France. Dès le mois de mars, les Prussiens se retirent, rentre chez eux, si je puis dire, non sans avoir auparavant, bien entendu, fait ratifier par une toute nouvelle assemblée élue en février 1871 l'armistice qui avait été signé avec le gouvernement provisoire, avec Jules Favre, et non sans avoir obtenu de la France des dommages de guerre absolument colossaux. Et le nouveau régime, issu des urnes de février, ce nouveau régime dont le chef de l'exécutif se trouve être Adolphe Thiers, ancien premier ministre de Louis-Philippe, un libéral, ce nouveau régime est très largement favorable à la monarchie. Il ne faut pas oublier qu'une majorité très importante des députés élus en 1871, élus par les campagnes et par les provinces de France, sont favorables à la monarchie. Ils ne veulent donc pas proclamer la République. Il ne donne pour l'instant pas de nom à ce nouveau régime qui se réinstalle à Paris en mars 1871 et très vite va devoir quitter Paris parce que c'est l'insurrection parisienne. Vous savez, c'est ce qu'on va bientôt appeler la Commune de Paris. Et donc tout le monde se retrouve au château de Versailles. Quand je dis tout le monde, les corps constitués, il faut imaginer le corps diplomatique, la Banque de France, tous les services centraux de l'État. C'est très important. Et toute la haute administration, les postes, les chemins de fer, enfin les chemins de fer à l'époque sont encore privées, mais toutes les grandes administrations se retrouvent au château de Versailles, dans les principaux hôtels particuliers et dans les principaux lieux de pouvoir de Versailles. Quant à Adolphe Thiers lui-même, où s'installe-t-il d'après vous? Eh bien, dans les meubles mêmes de l'empereur d'Allemagne, c'est-à-dire à l'ancienne préfecture de Versailles. Je dis l'ancienne préfecture, elle va d'ailleurs redevenir bientôt la préfecture. Alors, il y a là une période très très étonnante, assez incroyable, parce que on voit au rez-de-chaussée s'installer, alors du sud au nord, le ministère de quand je dis au rez-de-chaussée, du château de Versailles. On trouve le ministère de l'instruction publique et des cultes, là il est dans l'appartement de la dauphine, le ministère de l'intérieur chez le dauphin et dans une partie de l'ancien appartement d'été de Marie-Antoinette, le ministre des travaux publics s'est installé chez le capitaine des gardes, entre parenthèse, c'est un des jolis appartements qui se trouve au rez-de-chaussée du corps central du château, plutôt du côté du nord, avec des fenêtres qui ouvrent sur la cour de marbre. Le ministre des Finances se trouve chez Mesdames de France, les filles de Louis XV, les tantes de Louis XVI. Enfin, vous voyez que la République, ou pour disons, le nouveau régime qui ne veut pas encore s'appeler République, s'installe exactement dans les meubles de l'ancienne monarchie. Et c'est la première fois que ça a lieu depuis 100 ans. C'est ça qui est assez extraordinaire. Le Conseil d'État, la Banque de France, la Caisse des dépôts, le journal officiel, la direction des postes, tout ce monde-là se partage le château de Versailles qui est entièrement investi, tandis que M. Thiers donc règne, comme le dit la presse de l'époque, à la préfecture avec sa femme et sa belle-sœur. Vous savez qu'il y a une sorte, j'allais dire, de ménage à trois. Je ne voudrais choquer personne, mais enfin, c'est un peu bizarre, le ménage Thiers tout de même. Et on voit Monsieur Thiers, le tout petit Monsieur Thiers, vous savez, dont on disait lorsqu'il oubliait son crayon qu'il avait oublié sa canne sur le pupitre. On voit le petit Monsieur Thiers effectuer chaque jour des promenades digestives dans les jardins de Louis XIV. Thiers que l'on compare du reste évidemment très vite au nouveau roi de Versailles. Voilà ce qu'écrivent les chansonniers de l'époque. Je n'ai ni Montespan ni Fontange, la Vallière ou Maintenon, mais j'ai Madame Thiers, un ange et Félicie, un joli nom. Je les mène quand vient l'aurore se promener sur le gazon. Monsieur Thiers, répondit Dufort. Dufort, c'est le nom du garde des Sceaux. Monsieur Thiers, répondit Dufort. Monsieur Thiers, vous avez raison. Bientôt, le régime va se trouver un nom. Alors, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, sur lesquelles nous reviendrons peut-être tout à l'heure avec Jean Garrigue. C'est ce qu'on appelle l'amendement Vallon. On va dire qu'en pleine nuit, à la faveur d'un amendement parlementaire, va être décrété le nouveau régime républicain. Alors, il y a quand même toutes les lois constitutionnelles de 1875 qui vont fonder les institutions de la Troisième République. Et dans un premier temps, on va dire jusqu'en 1875 justement, on a une seule assemblée qui s'installe à Versailles, c'est cette assemblée élue en février 71 qui s'installe dans l'ancien opéra royal, un opéra qui a été complètement transformé pour la circonstance. Sauf qu'on est maintenant, à partir de 1875, dans un régime bicaméral, il y a une haute chambre et une chambre basse, il va falloir les loger toutes les deux à Versailles, il va donc falloir faire des travaux.
Un extrait de la marche des mousquetaires du roi de Jean-Baptiste Lully. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le Versailles des présidents de la République.
En vérité, c'est le Sénat qui va s'installer dans l'ancien opéra royal, là où était jusqu'ici l'Assemblée élue en pleine guerre, élue en février 1871. Quant à la toute nouvelle Chambre des députés, elle va aller s'installer de l'autre côté, dans l'aile du midi du château de Versailles. Au rez-de-chaussée, les services du chauffage, de l'aération, la poste de télégraphe, la caisse de l'Assemblée, nous dit Odile Caffin-Carcy. Au premier étage, la salle des séances, occupant le centre des bâtiments, les pas perdus, la salle des conférences, le secrétariat général de la présidence et le cabinet du président d'un côté, de l'autre la buvette, le fumoir, la questure donnant sur le parc, les salons de la présidence au couchant sur la cour de monsieur, les 15 bureaux sur les autres faces, rue de la bibliothèque et rue de la cour des princes. Et sur la cour des princes, alors évidemment les noms ont changé, hein. La rue de la bibliothèque est aujourd'hui la rue de l'indépendance américaine par exemple. Mais dites-vous que Edmond Joly, c'est l'architecte de l'Assemblée, celui qui a été choisi pour construire dans la grande cour centrale de l'aile du midi du château de Versailles, construire le nouvel hémicycle, Edmond Joly a prévu une enceinte de 1500 places. Alors c'est pas tout à fait un hémicycle comme celui que nous connaissons au palais Bourbon ou même comme celui du palais du Luxembourg. C'est plutôt une sorte de grande salle avec deux angles à pans coupés. Elle est gigantesque cette salle. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la visiter à Versailles, hein. Ça fait partie des choses qui se visitent. Alors ça obéit à des horaires de visite un peu particuliers, mais enfin c'est très intéressant à voir avec ces hautes colonnes corinthiennes, 16 gigantesques colonnes, hein, qui forment des péristyles interrompus dans les angles par de grands arcs en plein cintre. On ne sait pas tellement d'ailleurs quel style ça peut être. On va appeler ça le style éclectique qui emprunte un peu à tous les styles du passé. On est dans une époque historiciste qui adore citer d'un point de vue architectural les siècles passés. Et puis dans les voussures, autour de la verrière, de grandes allégories de la paix, de la guerre, de l'agriculture, de l'industrie. Ah, on voit déjà quels vont être les piliers culturels, j'allais dire philosophiques, de la Troisième République. Cette salle du congrès va bientôt pouvoir réunir, alors dans un premier temps elle est destinée à cette chambre des députés de 1875, et puis en 1879 seulement. Dites-vous quand même que tous les corps constitués étaient rentrés depuis très longtemps, depuis 1872 ils étaient rentrés à Paris. En 73, le président de la République, Mac Mahon, décide de se réinstaller à l'Élysée. Donc d'une façon générale, toute la direction, si je puis dire, des affaires du pays est rentrée à Paris. Les seuls qui restent à Versailles, soit parce qu'ils sont très prudents, soit parce qu'ils aiment le bon air de Versailles, soit tout simplement parce qu'il y a cette espèce de pesanteur toujours et d'inertie propre à la gestion des chambres parlementaires. En tout cas, la Chambre des députés et le Sénat vont rester à Versailles jusqu'au décret d'août, c'est pas un décret d'ailleurs, c'est une loi, d'août 1879. Donc, il faut attendre 79 pour voir députés et sénateurs faire retour à Paris. Et alors là, d'un seul coup, c'est le vide. Il ne se passe plus rien au château de Versailles. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Il y avait eu une première déréliction. Il y avait eu un premier abandon en 1789 avec le départ de Louis XVI et de la cour pour Paris, pour les Tuileries. Et c'est vrai que le château de Versailles ne s'en était jamais véritablement remis. Mais alors, ce qui se passe en 1879 est encore pire. Parce que le château a connu quelques mois, pour ce qui est de l'Assemblée et du Sénat, la Chambre des députés du Sénat, quelques années d'effervescence, et puis d'un seul coup, tout le monde s'en va. Sauf que là, on n'est plus dans le château tel qu'il était. Il a été complètement transformé, il a été complètement abîmé, disons-le, par l'emploi administratif et politique qu'on a essayé d'en faire pendant ces quelques années. Tout le monde s'en va, on n'organise rien, ça devient une grande maison morte, des jardins quasiment abandonnés. Il y a quelques petites anecdotes, on voit notamment le roi Louis II de Bavière effectuer à cette époque plusieurs visites à Versailles. Et il est en train tout simplement d'y faire relever des plans pour construire lui-même une sorte de pastiche de Versailles en Bavière, sur l'île de Herrenchiemsee, ce château absolument invraisemblable, sur l'île de Chiemsee plutôt, c'est le château qui s'appelle Herrenchiemsee. Ça c'est une chose, c'est un pastiche qu'il faut absolument visiter, c'est étonnant. Et puis le 22 octobre 1878, le maréchal de Mac Mahon va convier toutes sortes de hautes personnalités, les invités d'honneur de l'exposition internationale de 1878, qui n'est pas tout à fait une expo universelle, mais qui y ressemble singulièrement. Et alors on va organiser une gigantesque soirée, 12 000 invités à ce que la presse appellera le bal des paletots. Pourquoi le bal des paletots? Eh bien parce que le vestiaire avait été très mal organisé et que personne n'a retrouvé son manteau à la sortie. Donc les gens avaient une pagaille gigantesque et on s'est retrouvé quand même, c'est assez inouï, avec un tas incroyable de manteaux et de houppelandes et de zibelines et de tout ce que vous voulez. Les gens n'ont jamais récupéré leurs vêtements. On a appelé ça le bal des paletots. Alors, c'est une une période qui, pour le château de Versailles, est une période relativement morne, disons-le, au moins jusqu'à la nomination d'un nouveau conservateur en chef qui sera Pierre de Nolhac en 1892. Pierre de Nolhac, dont le rôle sera de réformer complètement l'ancien musée de peinture, l'ancien musée historique de Louis-Philippe, pour en faire un vrai musée d'histoire et surtout pour retrouver l'histoire de la demeure. Ça, c'est très intéressant. C'est l'époque où le château de Versailles, si je puis dire, redevient vraiment un château. Et d'ailleurs, on voit des hôtes de marque s'y précipiter pour visiter les lieux. Alors on parle toujours bien entendu de l'impératrice Eugénie qui avait connu les lieux dans d'autres temps. On parle du duc d'Aumale mais aussi des chefs d'État étrangers puisque le 8 octobre 1896 on reçoit en grande pompe à Versailles, c'est la République qui le reçoit, le tsar Nicolas II et sa jeune épouse, la tsarine Alexandra. Ce spectacle dont quelques-uns d'entre nous sont blasés parut si grandiose au souverain, écrit Nolhac, qu'ils l'admirèrent longuement sans parler et que chacun put voir un étonnement dans les yeux du jeune empereur qui avait cependant parcouru le monde et possédait pourtant chez lui tant d'autres merveilles. Il y a toujours cette petite fierté cocorico. Ce qu'on appelait le président de la République et le président Félix Faure, on l'appelait le président soleil et on dit que ce jour-là il rayonnait littéralement, il paradait comme un paon aux côtés de l'empereur de Russie. On a reçu également Édouard VII d'Angleterre, bien sûr, la reine de Norvège, etc. etc. Et la République dans tout ça, eh bien nous y venons.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Symbole de la grandeur monarchique française, mais également au lieu de représentation de la République. Franck Ferrand, vous nous parlez du Versailles des présidents.
Lorsqu'il m'arrivait, en des temps qui ne sont plus, je m'empresse de le préciser, de faire visiter Versailles, je m'amusais toujours à expliquer aux visiteurs que ce château n'était pas seulement le domaine des rois, des reines et des princes, c'était aussi le palais de la République et que la plupart des présidents de la 3e et de la 4e République, y compris même le tout premier président de la 5e République, ont été élus à Versailles, dans la célèbre salle du Congrès. Le tout premier qui y ait été élu, c'est le maréchal de MacMahon, le célèbre, le bizarre patrice de MacMahon, qui donc est élu en 1873. Alors lui, pas dans la salle du Congrès, puisque à l'époque, on est encore avec l'Assemblée unique, il est élu, lui, dans la salle de l'Opéra. Et puis donc, à partir de 1879, les élections vont se dérouler dans la salle du Congrès et seront successivement élus dans cette salle Jules Grévy, Sadi Carnot, Jean-Casimir Perrier, Félix Faure, Émile Loubet, Armand Falière, Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre Mirand, Gaston Doumergue, Paul Doumergue et Albert Lebrun. Puis, sous la 4e République, Vincent Auriol et René Coty. 15 présidents donc qui sont en quelque sorte, qui reçoivent l'onction du suffrage de leur père dans cet hémicycle d'Edmond de Joly. C'était tout à fait extraordinaire. Hein. C'est ce qu'on appelait les jours du Congrès. Il faut imaginer que dans cette ville de Versailles, ville de garnison, qui, disons-le, à la fin du 19e siècle, respirait quand même à un rythme relativement ralenti. Hein. C'est très étonnant, Versailles, d'ailleurs, et Dieu sait si je l'aime, cette ville. Mais c'est une ville de province aux portes de Paris. Et puis, il faut imaginer qu'au 19e siècle, c'était pas entretenu comme ça l'est aujourd'hui. Il y avait des herbes folles un peu partout. Il faut imaginer que cette ville était beaucoup trop grande pour la petite population qui l'habitait. Il n'y avait pas encore les milliers de quarts de touristes qui aujourd'hui s'abattent sur elle comme des nuages de sauterelles sur des champs de céréales. Et donc, du jour au lendemain, on voyait arriver non seulement tout le personnel politique de la Troisième République, mais des journalistes par centaines, par milliers, des photographes, parce qu'on en faisait bien sûr déjà des photographies, etc. C'était une animation, c'était une espèce de fête, c'était la grande kermesse de la Troisième République. Les élections présidentielles rappellent régulièrement la fonction du palais national, nous dit Fabien Hopperman dans son passionnant ouvrage, cette fonction de palais national du château de Versailles, lieu de représentation du pouvoir, l'espace de quelques heures, voire de quelques jours, Versailles redevient le centre de l'activité politique française, accueillant tous les représentants de la nation et des milliers de personnes, acteurs ou spectateurs de l'accomplissement de la République démocratique. Ces élections sont donc, et vous l'aurez compris, nous allons y venir et nous allons entrer dans le détail de ces élections avec Jean Garrigue dans un instant. Ces élections ne sont pas seulement un événement politique. C'est vrai qu'il y a via l'élection à proprement parler, qui a lieu d'ailleurs en public, parce que l'une des particularités de l'hémicycle, si l'on peut dire, en tout cas de la salle parlementaire conçue par Edmond Joly, c'est qu'elle comporte des tribunes quasiment aussi importantes que l'hémicycle lui-même. Donc il y a énormément de gens dans ces tribunes, notamment toutes les grandes dames de l'époque, bien entendu, le tout Paris, comme on dit. Et vous aurez compris que l'événement est donc au moins autant un événement mondain qu'un événement politique. C'est Colette, à l'époque, Colette est encore Madame Henri de Jouvenel, elle est l'envoyée spéciale, et pour cause, puisque je vous dis qu'elle est avec Jouvenel, elle est l'envoyée spéciale du quotidien Le Matin, on est en 1913, et voilà la description qu'elle nous donne de l'affluence considérable dans Versailles, 1913, c'est-à-dire qu'on est au matin de l'élection de Raymond Poincaré. « que de femmes », écrit-elle. Alors, c'est quand même bizarre, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, les femmes sont totalement exclues de la vie politique, évidemment, qu'elles ne peuvent pas être députées, qu'elles ne votent pas, etc. Mais pourtant, « que de femmes, mon voisin tout à l'heure au réservoir ». Alors, les réservoirs, c'est le restaurant de l'hôtel des réservoirs qui avait été installé depuis très longtemps dans l'ancien hôtel particulier de Madame de Pompadour, au pied des réservoirs de Versailles, dans la rue qu'on appelle encore la rue des réservoirs. Aujourd'hui, l'hôtel des réservoirs, hélas, n'existe plus. « Mon voisin tout à l'heure au réservoir nommait chaque nouvelle venue, le monde de la finance, de la politique, des lettres, le monde tout court fournissait à cette énumération des noms célèbres. Le théâtre et même le music hall avaient délégué à Versailles ce qu'ils ont de mieux comme vedettes. Elles sont vraiment beaucoup. Elles sont trop, nous dit Colette. Au restaurant, il y a eu, en travers des tables nappées de blanc, sur les mains chargées de bagues, les aigrettes en fusée et les cheveux d'or neuf, sur les profondes fourrures, l'oblique et le rose soleil de janvier qui rend bavards les femmes et les oiseaux encagés. C'est extrêmement bien dit. Et du reste, Colette décrira par la suite l'extraordinaire effervescence qui peut régner dans l'aile du midi du château de Versailles au moment de l'élection de Raymond Poincaré, de l'élection en tant que telle. Alors, un grand événement mondain, un événement politique majeur sur lequel nous allons bien sûr revenir. Pour le reste, rien de si extraordinaire. Hein. C'est Eugène de Vogüé, dans son roman « Les morts qui parlent », qui nous raconte les électeurs défilant à la tribune à l'appel de leur nom. Il parle de la galerie des tombeaux. Mais oui, parce que c'est la galerie qu'avait conçue Louis-Philippe et dans laquelle se faisaient tous les conciliabules préparatoires à l'élection. « Religieuse galerie de cloître, écrit-il, avec son pavé de pierre de liais, sa longue perspective d'arcade retombante sur des cénotaphes et des statues. Sous ses voûtes austères, l'imagination appelait des moines, rassemblés pour l'élection d'un prieur. Et c'était une mascarade saugrenue que celle de la cohue politique agitée et surchauffée qui promenait là son sans-gêne, ses intrigues et ses curiosités fébriles. Des chapeaux à haute forme, coiffaient les chefs héroïques de Lannes et de Kléber, des brassées de paletots drapaient les tombeaux de Ferdinand le Catholique et d'Isabelle de Castille. Dans le vestibule des poètes, les corbeilles de bulletins offraient leurs marchandises, sénateurs, députés, journalistes de toutes nuances fraternisaient avec des effusions de bonhomie et de jovialité que l'on n'avait jamais vues au Palais Bourbon. Bonjour Jean Garrigue. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette vie politique de la Troisième République qui a eu ses heures de gloire au château de Versailles, aussi étonnant que cela paraisse.
Un extrait de l'Impérial d'Hector Berlioz par le Chœur et Orchestre Symphonique de Montréal. Une musique à retrouver dans le coffret de Stéphane Bern, les musiques royales. Le Versailles des présidents est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'historien et professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po, Jean Garrigue, auteur du livre Le Monde selon Clémenceau, paru chez Talendier.
Alors Jean Garrigue, nous allons d'abord peut-être évoquer cette journée du congrès qui avait lieu par définition tous les 7 ans, sauf que de temps en temps...
les événements faisaient que... Vous voyez, l'assassinat de Sadi Carnot, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir au mois de juin 1894. Et puis son successeur, Jean-Casimir Perrier, qui très vite abandonne. D'ailleurs, à peine élu, il s'est mis à pleurer... tellement il était effrayé par l'ampleur de sa tâche, et en disant non, je vais être prisonnier au palais de l'Élysée. Donc voilà, il y a comme ça beaucoup d'événements qui font que le rythme du septennat est interrompu sous la Troisième République.
Alors évidemment, il y a un phénomène de perspective qui fait que pour des enfants de la Cinquième République, si je puis dire, que nous sommes, la Troisième et la Quatrième paraissent n'avoir conféré au président de la République que des pouvoirs très limités. Et donc nous avons tendance à les traiter un petit peu par-dessus la jambe, tous ces présidents de la 3e et de la 4e que j'ai cités tout à l'heure. Ce que vous nous dites, vous, c'est qu'en fait, ils avaient un rôle beaucoup plus important que ce qu'on pense.
Oui, bon, incontestablement, les institutions de la 3e et de la 4e République sont des institutions parlementaires, oui. Et c'est vrai que
Le pouvoir est à l'Assemblée
et par délégation au gouvernement. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les présidents de la 3e République ne se contentent pas d'inaugurer les chrysanthèmes. Ce ne sont pas des présidents solivaux comme refusait de l'être d'ailleurs Vincent Auriol sous la 4e République. Ce sont à la fois, je dirais, d'abord des incarnations. Et ce rôle est très important, et on le voit bien d'ailleurs au moment de l'élection des présidents. Vous avez montré à quel point il y a une effervescence du pays tout entier autour de cette élection, pas seulement à Versailles, d'abord à Versailles bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans tout le pays parce qu'on attend véritablement qui va être la personnalité qui va incarner cette République, ce collectif dont on a besoin qu'il se figure dans une personnalité emblématique. Alors, ils sont pas toujours à la hauteur, ils sont très différents les uns des autres.
Alors on va voir ça, oui, voilà. au cas par cas,
mais on a besoin de cette incarnation, et on a besoin aussi, et très souvent c'est le cas, de quelqu'un qui pourra être une sorte d'arbitre suprême entre les partis qui se partagent le pouvoir.
Et puis on a besoin tout simplement de quelqu'un qui incarne la nation tout de même. C'est bien le chef de l'État, qu'on le veuille ou non. Et donc c'est assez étrange, vous avouerez, que ce régime qui, dans les années 1880, s'ancre clairement dans une république incontestable. Ça, on va pas remettre en cause la dimension républicaine du régime de la Troisième République, en tout cas à partir des années 80. Et comment expliquer que ce régime ait besoin d'aller chercher dans le château des rois, dans ce qui allait l'échelle mondiale incarne la notion même de monarchie, l'onction en quelque sorte de l'onction quasiment divine. C'est assez étrange, ça.
Parce que précisément, il faut occuper ce vide d'incarnation. Il faut se ressourcer dans la légitimité de l'histoire ancestrale, je dirais, de la France, retrouver dans ce lieu emblématique, dans ce lieu magique, j'allais dire, cette légitimité-là, et on voit à quel point ils y sont tous très très attachés, à quel point, par exemple, lorsque s'annonce la tenue du congrès, on va reconstituer à Versailles les 50 bureaux de l'Assemblée, on va décorer de manière extrêmement spectaculaire les appartements du président de la Chambre et du président du Sénat, Sénat, c'est-à-dire qui d'ailleurs sous la Troisième République est le président du Congrès, qui préside la réunion de l'Assemblée nationale en Congrès. Et donc à quel point on va alors reconstituer la buvette, etc. On reconstitue véritablement la République à Versailles. On s'approprie ce lieu parce que ce lieu il est le cœur de l'histoire de France.
Je suis certain que certains de nos auditeurs sont surpris par ce qu'on raconte, parce que c'est une page de notre histoire qui est quasiment oubliée, ça.
Oui.
À quoi ressemblait cette journée du Congrès? Alors moi j'ai décrit un peu les journalistes qui se pressent dans le palace local, à l'hôtel des réservoirs, etc. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a donc ce tout Paris. C'est Pierre de Nolhac qui est le conservateur du château. Ça restait quand même un musée, un château. Donc le conservateur, ce jour-là, reçoit les plus hautes personnalités de la société parisienne dans son salon, qu'on appelait le salon blanc, et d'où tout le monde s'installait sous le péristyle, c'est-à-dire au balcon, si vous voulez, pour voir arriver, justement, les délégations politiques, les candidats. Alors, on viendra tout à l'heure à la dimension purement politique et à l'élection, comment ça se faisait. Mais la journée du congrès, ça ressemblait à quoi d'une façon générale?
D'abord, ça commence avant. la veille, je dirais même deux jours avant, quand c'est possible, on commence à mettre tout en place et une petite ville se crée. Mais vous l'avez dit, on passe d'une ville de qui dort à une capitale. Donc d'un coup, tout ça se met en place. C'est un cortège de voitures, de camions qui viennent installer au fond tout l'arsenal de la vie politique française. Tout ce qui compte doit être là, et aussi toute cette mondanité dont vous parliez tout à l'heure, et puis aussi les militaires sont très très présents, parce qu'il faut assurer la sécurité. Il y a eu quelquefois des problèmes de ce côté-là, la sécurité, les soldats sont partout dans Versailles, la police est là aussi, la police va être ensuite sur le parcours de Versailles à Paris pour le retour du président élu, c'est très important. Donc là, on a véritablement une effervescence pendant 48 heures qui est spectaculaire.
Parmi les militaires qui étaient là au moment de l'élection du président Lebrun, donc ça c'est 1932, se trouvait un jeune homme qui faisait son service militaire et qui a vu passer le nouveau président Lebrun tout juste élu et qui s'appelait François Mitterrand. D'ailleurs, je dis ça pour la petite anecdote, mais ça fait partie des choses amusantes à dire. Il y avait un futur président de la République dans la garde du président nouvellement élu, Albert Lebrun. Donc il y a toute cette mise en place, et puis arrivent donc les députés, les sénateurs. Ce sont eux les acteurs de l'affaire,
oui,
bien
oui.
entendu.
Hein. Alors la première fois, enfin j'allais dire pour la première élection versaillaise, celle de 1879, celle de la première fois dans la
en congrès,
la salle de congrès,
oui.
en congrès. Au fond, ce sont les sénateurs qui ont rejoint depuis la salle de l'Opéra en cortège, un cortège de 500 mètres, entouré de haies de soldats, qui ont rejoint la salle du congrès sous les applaudissements de la foule déchaînée, mais de la foule des officiels, parce que la foule des simples quidam, elle était reléguée aux grilles du château, mais elle était très nombreuse, hein, ce qui montre à quel point c'était important ce qui se passait là.
Mais on voit chez Léon Daudet, par exemple, chez certains, comment dirais-je, satiristes, on voit à quel point les magouilles, si je puis dire, les tractations pour obtenir une invitation à ces jours du congrès étaient incroyables. C'est-à-dire qu'être invité, être derrière les grilles ce jour-là, était une sorte de brevet de mondanité. C'était un brevet d'appartenance au grand monde. Quoi,
c'était
en fait,
le must, hein.
Oui,
c'était le must. Ce qui prouve bien, hein, je le répète, à quel point c'était un moment important de la vie politique et un moment qui se préparait. Alors ça, c'est vraiment, on est là dans le processus de l'élection qui se préparait la veille, voire plusieurs jours avant, dans les couloirs d'abord parisiens, à partir des 1879, de l'Assemblée ou du Sénat, surtout du Sénat d'ailleurs, et puis ensuite, quelquefois même, à Versailles, au moment de l'élection elle-même.
Alors on va venir au rôle prépondérant du Sénat, bien entendu, dans cette élection. L'élection a lieu en tant que telle. Alors c'est une élection très très rébarbative, puisque chacun passe l'un après l'autre à la tribune, dépose son bulletin. Or il y a parfois un nombre de tours considérable, on va y venir tout à l'heure. On a vu des élections qui quand même tournaient à une sorte de ronde comique, hein, d'une certaine manière, avec des heures et des heures de vote.
Pour René Coty, ça a duré une semaine. Voilà, il a fallu une semaine pour, et au 13e tour,
enfin. Ce qui s'appelle être bien élu. Hein.
Mais ce qui s'appelle être bien élu. Personne ne pensait que René Coty, obscur sénateur de Seine-Maritime, ne pourrait devenir un jour président de la République. Et pourtant, il a bien réussi son coup.
Oui, oui, à tout point de vue, du reste. Mmh. Mais bon. Et puis, le président est élu, et alors là, il y a toute une sorte de, je parlais tout à l'heure d'onction, mais il y a presque une intronisation dans le bureau du président du Sénat. Alors, on a ressorti pour l'occasion le grand bureau monumental qui était le bureau de Lucien Bonaparte le jour du coup d'État du 18 Brumaire, entre parenthèses,
ce
sont les clins d'œil de l'histoire. Et alors, on donne au président son sceau, etc.
Oui, le procès verbal de l'élection. Faut rappeler que alors l'élection, elle a lieu donc dans cette grande salle du congrès, par appel nominal. D'abord, il faut désigner une lettre. La lettre par laquelle va commencer. Je parle de ça parce que je ne sais plus en quelle année il y a eu ce choix de la lettre U.
Ah.
Et le président de session, lorsqu'il a prononcé cette lettre, a fait hurler de rire toute la salle. Bon, il en fallait peut-être un peu beaucoup parce que ils devaient être un peu tendus et
tout le monde avait bien bu aussi, à mon avis.
Et sans doute ils avaient bien bu aussi et mangé parce que bon, on considérait que c'était c'était comme quelqu'un qui lançait sa charrette, sa carriole, la charrette, voilà, la charrette de la République. Voilà. C'est, alors, au passage, d'ailleurs, le premier député c'était un député d'ailleurs socialiste qui a amené à voter, s'est mis à hurler à bas la dictature, ce qui ne présageait pas d'une très belle élection. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, ça commence en 1913 avec l'élection de Poincaré, où une sorte de charrette publicitaire des anarchistes a essayé d'entrer dans le palais de Versailles, et puis a été repoussé évidemment par la garde républicaine. Il y a eu des incidents, et surtout la gauche qui était très hostile à l'institution présidentielle, les députés, les sénateurs de gauche, bien souvent, ça commence en 1894, se mettent à hurler « à bas la dictature, à bas les voleurs », etc. Il y a eu des problèmes au moment même du vote.
C'est un véritable spectacle.
Un spectacle.
Et c'est Melchior de Vogüé, dont il faut préciser qu'il est royaliste, par ailleurs, donc évidemment, il jette sur tout ça un regard extrêmement acerbe et drôle du reste, mais il nous dit que systématiquement, cette élection finissait un petit peu en eau de boudin, puisqu'il y avait donc cette espèce d'intronisation, mais à laquelle assistaient seulement quelques personnes dans le bureau du président du Sénat. Et puis ensuite, le président montait dans sa voiture à la Daumont, et puis il rentrait gentiment à Versailles sous les applaudissements de la foule. Mais il n'y avait rien de particulier, c'est-à-dire que ça finissait toujours un peu en queue de poisson, si je puis dire.
C'est pas si simple, parce que quand on regarde un peu la presse de l'époque, à partir des années 1890, on s'aperçoit d'abord que le président est félicité spontanément par une foule de députés, de sénateurs, et puis de mondains qui sont là. Il y a aussi quelque chose de très important, qui sont les félicitations des représentants de la presse parlementaire. Il y a d'abord un petit discours du président, et puis ces félicitations-là, ce discours qui montre bien à quel point est présente la presse et le rôle qu'elle joue dans la médiatisation de l'événement, dans la publicisation de l'événement.
Précisons bien que ce président, un petit peu comme le président italien actuel ou le président de la République fédérale allemande, n'a qu'un pouvoir symbolique, enfin largement symbolique, même s'il a quelques pouvoirs, on va y venir d'ailleurs si vous voulez dans un instant, mais il n'a par définition pas de programme politique, donc son discours reste un discours institutionnel.
Discours institutionnel, mais si vous lisez bien ces discours, ils sont quand même très politiques. Ils sont politiques parce que il y a évidemment cette notion d'incarnation, de rassemblement des républicains, mais il y a aussi très très souvent la sensibilité politique, bien souvent modéré d'ailleurs, du président qui apparaît. Je dis bien souvent modéré parce qu'il y a quand même une surreprésentation des présidents du Sénat élus président de la République, notamment sous la Troisième République, que ça soit les Loubet, Falière et autres. Et on voit très bien que un président de la République, c'est un président qui doit satisfaire à la fois les modérés, les un peu plus radicaux, qui doit faire l'amalgame de tous les républicains. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a une sensibilité de rassembleur, de négociateur. Et ça se marque dans le discours d'intronisation.
Alors dans un instant, nous en venons aux élections elles-mêmes et à tous les incidents de séance, car il y en a eu.
Sur Europe 1, Liberamé, un extrait du Requiem de Gabriel Fauré. Nous visitons le Versailles des présidents de la République cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, l'historien et le professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po, Jean Garrigue, auteur du livre Le Monde selon Clémenceau chez Talendier.
Mais on me fait remarquer, Jean Garrigue, et c'est très vrai, que le président de Gaulle, lui, le premier président de la Ve République, même si à l'époque l'élection n'était pas au suffrage universel, n'a pas été élu par le Congrès à Versailles, il faut le préciser.
Non, il a été élu par un collège électoral de 80 000 délégués, dont d'ailleurs les députés et les sénateurs, mais enfin qui dépassaient évidemment le cadre du Congrès. Ce qu'il faut rappeler aussi, qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que cette élection de Versailles, Versailles, elle se préparait avant.
Et voilà.
Voilà.
Il y avait des primaires en quelque sorte.
Il y avait des primaires, exactement, avant la lettre, qui étaient des primaires républicaines, c'est-à-dire dans le camp de la majorité. On va dire jusqu'au début du XXe siècle, la majorité est républicaine. Ensuite, il n'y a plus tellement de monarchistes. Hein. Et donc, cette majorité, elle doit choisir son représentant. Seulement, quelquefois, certains ne se plient pas à cette discipline. C'est le cas de Raymond Poincaré, par exemple, en 1913. Il est très mécontent que le choix de ses collègues se porte plutôt sur Jules Pam, ce qui est plutôt quelqu'un d'obscur, qui a été d'ailleurs son ministre, puisque Poincaré était président du Conseil. Et donc, il choisit le lendemain, à Versailles, déniant le choix qui a été fait la veille à Paris, il choisit de se présenter, et finalement, c'est lui qui est élu. Parce qu'une partie de la droite, des conservateurs, vont voter pour lui.
Alors, pensons à nos plus jeunes auditeurs, même si le bac est passé, maintenant ils sont en vacances. Mais enfin, quand même, révision générale. La Première République n'a pas eu de président, par définition. La Deuxième République a eu un président de la République, mais lui, il a été élu au suffrage universel, masculin à l'époque, bien entendu. C'était donc Louis-Napoléon Bonaparte, qui va transformer le régime en Second Empire plus tard. Et puis donc... au moment de la Troisième République, Adolphe Thiers est élu chef de l'exécutif par la fameuse assemblée
à Bordeaux.
Et ensuite, c'est le premier président élu à Versailles. Il est élu par cette fameuse assemblée qui siège encore dans l'Opéra Royal. Et c'est Adolphe, c'est le maréchal de MacMahon. C'est le premier qui va se réinstaller à l'Élysée, lui, donc en 73. Et le premier président élu en 79, donc. Par le congrès dans la grande salle de l'aile du midi du château de Versailles, c'est donc Jules Grévy qui est le premier, j'allais dire vrai président, non, mais enfin c'est le premier président dans sa formule classique
en
quelque sorte.
Oui, dans le cadre des institutions, voilà, des lois constitutionnelles de 1875. Il était d'ailleurs le président de la Chambre des députés, c'est une autorité incontestable, pas forcément le plus populaire des républicains, loin de là, puisque c'est Gambetta qui est de loin celui que les Français connaissent. Mais pourquoi Jules Grévy? Parce que Jules Grévy, précisément, est un modéré, est un homme de négociation, est un homme de consensus, et donc, que ce soit les sénateurs, le Sénat à l'époque est une petite majorité quand même monarchiste, le Sénat et les députés et la Chambre des députés se mettent d'accord. Pour ce Jules Grévy.
Bon, ce pauvre Grévy, il a un gendre qui s'appelle Wilson et qui va lui faire beaucoup de misère. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire.
Hein. Il a quand même eu le temps d'être réélu. Hein. Il a été réélu en 1886, Jules Grévy, mais son deuxième septennat, évidemment, s'est terminé.
Là, ce qu'on appelle l'affaire des décorations. Son gendre, en deux mots, marchandait des légions d'honneur. Il avait installé un petit bureau, une petite industrie à l'Élysée. Hein.
Ah oui, une véritable industrie, des milliers de légions d'honneur, de décorations qui ont été ainsi trafiquées, vendues, en échange souvent soit d'argent, soit d'actions dans les imprimeries et les journaux de Daniel Wilson. Ah oui, c'était une véritable industrie.
Donc,
mais ça
le président
cher.
Est obligé de démissionner.
Ah, quel malheur d'avoir un gendre.
Et voilà, c'est ce que disait les chansonniers, et donc on va réunir de nouveau, un an plus tard, les députés et les sénateurs sont de nouveau à Versailles, et cette fois il faut faire qui va-t-on élire?
Oui, et alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a deux favoris, le grand homme de la Troisième République, puisque Gambetta est mort, c'est Jules Ferry, sauf que Jules Ferry ne plaît pas du tout à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et que pendant les 2-3 jours qui suivent la démission de Jules Grévy, il y a des manifestations à Paris qui crient Abba Ferry, Ferry
personnalité beaucoup trop charismatique et beaucoup trop saillante pour pouvoir être élu président, parce que ce qui est quand même étonnant, c'est que peut-être à l'exception de Raymond Poincaré, encore faudrait en discuter, tous ces présidents de la République sont des figures relativement lisses quand même.
Oui, il faut plutôt des secondes zones, hein, des seconds couteaux. C'est d'ailleurs le cas de Sadi Carnot. Hein. Clémenceau, très, très méchamment, va dire on a choisi le plus bête. Ce qui était tout à fait injuste, puisque Sadi Carnot était un...
Oui, mais Clémenceau était très injuste, n'est-ce pas?
Clémenceau ne refusait pas ce genre d'injustice. Très souvent, il faut quand même quelqu'un qui soit suffisamment lisse, suffisamment... qui ne fasse pas trop de vagues pour permettre justement l'alliance de tous.
Alors quand même, bon, il y a eu entre les deux Jean-Casimir Perrier, mais Félix Faure, lui, est quand même une figure assez marquante.
Félix Faure est une figure marquante, mais c'est pour des raisons politiques que Félix Faure est intéressant, parce que précisément, Félix Faure est plutôt quelqu'un qui est parmi les Républicains plutôt à droite, et donc qui peut concilier les plus extrêmes et les plus conservateurs. C'est pour ça qu'on a choisi Félix Faure. Et en plus, Félix Faure succédait, lui qu'on appelle Petit Tanneur du Havre, il s'était d'ailleurs pas mal enrichi, mais enfin, il succédait à Jean-Casimir Perrier, lui qu'on avait attaqué dès le début parce qu'il était l'homme du grand capital, dirait-on aujourd'hui, l'homme des 40 millions, Casimir Danzin. Et donc, Félix Faure, par contraste, pouvait apparaître comme quelqu'un de satisfaisant.
Félix Faure, le président soleil, comme disaient les chansonniers, est élu en 1895. Il aurait dû être à l'Élysée jusqu'en 1902, voire jusqu'en 1909, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il soit réélu, oui. Très probablement. Oui, oui. Sauf que, évidemment, il a eu ce petit problème que tout le monde connaît.
Il a eu ce petit problème avec Mme Stenel. On ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé. Toujours est-il que...
Le pauvre, il a fait une crise cardiaque à l'Élysée.
Une visite de sa maîtresse. Voilà. Bon. Donc, évidemment, ça a provoqué une élection surprise.
99.
Oui, mais une élection qui a, là encore, qui a un rôle politique très important. Parce que celui qui succède à Félix Faure, Émile Loubet, qui est un méridional, bon
oui,
temps,
avec bien, un accent un
bien
peu,
sympathique, président du Sénat et un homme de rassemblement, c'est quand même quelqu'un qui va réussir à débloquer cette terrible affaire Dreyfus, parce que il va accepter de gracier le capitaine Dreyfus, ce que Félix Faure se serait sans doute refusé à faire. Émile Loubet a eu une position beaucoup plus intelligente, je pense, beaucoup plus politique, beaucoup plus tactique dans cette affaire Dreyfus. Et donc, vous voyez à quel point, hein, là, le changement de président a permis de dénouer une crise politique. C'est pas la seule raison, mais a permis de dénouer une crise politique majeure.
Plus on approche de la... Alors, il y a Armand Falière aussi entre les deux. Plus on approche de la Première Guerre mondiale, on sent, bien entendu, le pays se tendre, on sent la situation internationale devenir irrespirable. Oui. Et on va élire là, pour le coup, une personnalité nettement plus charismatique d'un seul coup.
Oui, Raymond Poincaré. Là, c'est vraiment un grand homme d'État. Il est président du Conseil. Il a montré dans l'affaire des trois ans, c'est-à-dire le rallongement du service militaire, une fibre nationaliste, la fibre d'un Lorrain, qui plaît à beaucoup de Français, qui l'a rendu très populaire. Et c'est donc une vraie personnalité politique là, de premier plan, qui est élu président de la République. Cela dit, dans l'exercice de sa présidence, il va beaucoup souffrir de la concurrence à partir de 1917 de son président du Conseil, qui sera Georges Clemenceau, qui lui sera encore plus emblématique.
Ah oui, et qui aurait bien aimé, lui, être élu président de la République.
Eh oui.
Pourquoi Clemenceau voulait-il, lui, théoriquement, le radical, l'homme incarnant la gauche, etc. En quoi veut-il de cette fonction quasi-monarchique de président de la République ?
Je pense que c'est une évolution de carrière. On peut dire aussi que précisément cette fonction qui est moins prenante que celle de président du Conseil pouvait attirer cet homme qui avait déjà beaucoup plus de 70 ans. Et puis c'est une sorte de couronnement de récompense, lui qui a été donc adulé au lendemain de la Première Guerre mondiale, considéré comme le vainqueur politique de cette guerre. Et son péché d'orgueil, c'est de ne pas avoir suffisamment intrigué pour être élu en janvier 1920. Et bien, il s'aperçoit au premier tour, enfin, au moment de ses primaires, plus exactement, qui ont lieu à Paris, au Sénat, il s'aperçoit qu'il n'a pas suffisamment de voix et qu'il est devancé par ce Paul Deschanel qu'il méprise, comme il méprisait d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques de son temps. Et il ne va pas se présenter à Versailles, il va refuser l'élection. En fait.
Alors, le malheureux Deschanel, il va pas régner longtemps. On l'a sans doute, et vous lui avez souvent rendu justice du reste, on a sans doute un peu aggravé son cas, évidemment, mais bon, il faut reconnaître qu'il n'avait pas le tempérament et la psychologie qui permettait d'assumer de très hautes fonctions. Il était un petit peu dépassé par les événements, disons.
Oui, d'ailleurs, il le dit dès le lendemain de son élection, je ne suis pas digne de l'honneur qu'on me fait. Hein. Ça augurait mal, évidemment, de sa présidence. Et puis, il y a surtout... Ces maladies qui l'atteignent, cette neurasthénie, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, bon, très très vite, il déraille, hein, dirait-on familièrement.
Et alors, si l'on met Deschanel à part, quoique, on se rend compte que plus le temps passe, plus on avance dans cette Troisième République, et plus les présidents sont des présidents charismatiques, importants, Poincaré, Clémenceau qui voulait le devenir, même s'il n'a pas été, Alexandre Mirand qui lui veut quasiment... J'allais dire prendre le pouvoir.
Ah oui, Mirand, ça aurait pu être un grand président, et c'est précisément parce qu'il voulait revaloriser l'équilibre institutionnel du pouvoir exécutif, qu'il est tombé parce qu'il est allé au bras de fer avec le cartel des gauches, avec les radicaux, et c'est ce qui l'a conduit à démissionner, hein, parce que, comme il l'avait annoncé d'ailleurs, à partir du moment où la politique menée ne serait plus en accord avec sa volonté présidentielle, et il a démissionné en 1924, et c'est ce qui a amené au pouvoir Gaston Doumergue.
Donc la dernière élection, alors bon, c'est bientôt la fin de Gaston Doumergue est élu en 24, ensuite Paul Doumergue qui sera assassiné, oui. Albert Lebrun dont je parlais tout à l'heure, élu en 32, réélu en 39, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bon, il y a la parenthèse de Vichy bien entendu, le gouvernement provisoire, et puis avec les nouvelles institutions de 1946, deux présidents qui ont un peu le même type de fonction que leurs prédécesseurs de la Troisième République, donc Vincent Auriol et le fameux René Coty dont vous parliez, élu en 53, il n'y en aura plus à partir de là. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est le moment où le château de Versailles change un peu d'utilité pour la République. Alors, il a quand même accueilli entre-temps l'Assemblée de l'Union, c'est-à-dire le Commonwealth à la française, ça n'a pas duré longtemps, mais enfin ça a existé. Et puis surtout, le château de Versailles devient une sorte de salle des fêtes pour la République. La grande réception, c'est celle de la reine Elisabeth II en 1957 par Coty, bien entendu, mais ensuite il y aura Jackie Kennedy
en 61,
etc. Le Shah d'Iran en 74, enfin il y en a une quantité, bien entendu, de grandes soirées à Versailles. Ça dure jusqu'... et y compris au sommet de 1982 avec François Mitterrand.
G7.
Et puis avec Jacques Chirac, c'est la fin. Et alors on a l'impression aujourd'hui que le château de Versailles est définitivement retourné à la monarchie et que la République ne s'y intéresse plus, Jean Garrigue.
Oui, c'est alors pour des tas de raisons. Alors c'est vrai aussi que l'Assemblée nationale avait conservé un certain nombre de
qu'elle n'a plus depuis 2005. Hein, oui.
Et voilà, et Jean-Louis Debré a choisi de renoncer à ses locaux. Donc il y a véritablement effectivement une sorte d'éprise de la République à Versailles pour en faire une sorte de lieu muséal et touristique, patrimonial, qui incarne au fond la grandeur de la France, mais il y a encore toute cette mémoire républicaine,
oui, qu'il faut pas oublier,
c'est dommage,
à mon avis,
de l'oublier.
Eh bien, c'est ce que nous dit Fabien Hoppermann dans son bel ouvrage chez Fayard, Le Versailles des présidents, 150 ans de vie républicaine chez le roi Soleil. Merci beaucoup, Jean Garrigue.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Julien qui vous demande via le site internet europe1.fr pourquoi Louis XVIII ne s'est pas réinstallé à Versailles lors de son règne.
C'est un peu ce que je vous disais au tout début de mon récit tout à l'heure. Le château de Versailles a été résidence royale de 1682 à 1715 et de 1722 à 1789, donc pendant exactement un siècle. Et puis Louis XVI s'en va. Et c'est vrai que après Napoléon Ier, qui a d'ailleurs fait beaucoup pour le château, qui l'a très largement fait restaurer, lorsqu'arrive Louis XVIII, on pourrait imaginer qu'il va se réinstaller à Versailles. Et lui-même en a l'intention, figurez-vous. Il voudrait s'installer aux Tuileries pendant la saison d'hiver et avoir, un peu comme les empereurs de Russie ou les souverains de l'Est, avoir un palais d'été pour la belle saison qui serait le château de Versailles. Et c'est la raison pour laquelle il lance des travaux considérables à Versailles dès 1814. Sauf que vous savez ce qui va se passer, le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, les fameux 100 jours, Waterloo, etc., dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Louis XVIII a dû subir un deuxième exil. Quand il rentre, comme on dit, dans les fourgons de l'étranger, il n'est plus du tout populaire. La France doit payer des dommages de guerre considérables. On est dans une situation très difficile, avec en plus des troupes d'occupation. En 1815, il n'est plus du tout question d'aller s'installer au château de Versailles. Et entre nous, d'autant moins que le roi Podagre, comme on l'appelait, est devenu obèse, hein, il est quasiment plus transportable, et donc il va s'installer définitivement aux Tuileries, ce qui ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout des grandes restaurations du château de Versailles. Alors, Charles X, lui, avait sans doute trop de culpabilité personnelle pour avoir du tout l'intention d'aller s'installer à Versailles. Quant à Louis-Philippe, pour des raisons sans doute de rancœur dynastique, mais qui nous entraînerait un peu loin, il a décidé de définitivement boucler la maison et de la transformer en musée pour que plus personne, précisément, ne puisse jamais l'habiter. Je profite de la seconde qui me reste pour vous citer le titre du dernier livre de Jean Garrigue, Le Monde selon Clémenceau. C'est tout à fait passionnant, même si moi ça a tendance parfois à m'irriter. Le Monde selon Clémenceau, c'est édité chez Talendier.